Vous écoutez, on lit pour vous.
Convertir des bureaux pour répondre à la crise du logement. Un texte de Justine Leblon paru le 14 mai 2024 dans le Franco en Alberta. Pour faire face à la crise du logement, la mairie de Calgary mène, depuis 2 ans, un plan de réhabilitation de son centre-ville, dont l'objectif est de convertir en appartements les nombreux immeubles de bureaux vides. Personne ne devinerait, en passant devant le Cornerstone dans le centre-ville de Calgary, que le bâtiment, dorénavant résidentiel, était un ancien immeuble de bureaux. À l'intérieur, les logements ressemblent à des appartements neufs, avec, en prime, de grandes fenêtres et une lumière du jour qui traverse le logement de part en part. Cet immeuble a été converti en résidence par Maxime Olszewski, le président-directeur général des groupes immobiliers People First Development et Astra Group. On a commencé ce projet en 2022. C'est une conversion d'une tour de bureau de 130 000 pieds carrés. La façade a été entièrement refaite. Des balcons ont même été bâtis. Ce projet va abriter environ 112 logements, de 2 ou 3 chambres. Jusqu'à 500 personnes pourront vivre ici, complète le promoteur. Les premiers locataires investissent les lieux en avril, avec un loyer mensuel dans la moyenne du marché actuel du neuf, entre 2 000 et 2 900 $ pour un 2 chambres et une salle de bain. La ville de Calgary bat le record de l'augmentation des loyers pour l'année 2023, avec une hausse de plus de 14 %. Il faut dire que les offres sont peu nombreuses sur le marché. « Nous avons plus de demandes que d'inventaire », commente Paula Lehmans, agente immobilière depuis plus de 25 ans en Alberta. « Les logements à vendre se vendent tous très rapidement. Nous sommes pratiquement toujours en offre multiple. » Les appartements neufs sont toujours relativement plus chers. Quand on regarde les prix des condos, ils ont augmenté, d'après les dernières données, d'environ 15 % en un an. Le coût des loyers augmente aussi, mais c'est à cause de la pression forte qu'on a sur la demande, ajoute Charles Saint-Arnaud, économiste en chef chez Alberta Central. Moins gourmand en ressources. Le Cornerstone est loin d'être le premier gratte-ciel à être converti en logement dans le centre de Calgary. Quelques rues plus loin, il y a le Cube, 65 appartements, un projet terminé en 2019 par Ken Toews, vice-président de Strategic Group. À l'intérieur du bâtiment, seuls les ascenseurs du sous-sol et le stationnement ont été conservés. Nous voulons que les conversions donnent l'impression d'un bâtiment flambant neuf, explique Ken Toews pendant une visite. Il a clairement fallu modifier certains plans d'appartements pour que ça marche. Il y a une plus grande variété de modèles en raison de la configuration du bâtiment. Ici, par exemple, il y avait une sortie de secours à l'entrée et l'appartement prévu dans cette partie ne s'y insérait pas. Nous avons donc dû totalement réaménager. Il faut vraiment être capable de s'adapter pour que ça fonctionne, montre le promoteur. L'un des avantages mis en avant par les groupes immobiliers, en plus du temps gagné en ayant un bâtiment déjà construit, c'est l'aspect environnemental. Les 4 bâtiments que nous convertissons en ce moment représentent 17 000 tonnes de gaz à effet de serre. Nous les conservons et environ 60 000 tonnes de matériaux de construction ne partiront pas à la décharge. La conversion d'un bâtiment par rapport à la construction d'une maison est très différente, détaille Ken Toews. Une solution parmi d'autres. Pour Paul Lehmans, convertir des bureaux vides en logements participe à augmenter l'offre disponible, même si cela ne suffira pas. Compte tenu des défis actuels en matière d'approvisionnement et du temps nécessaire pour la conversion, ces efforts ne seront probablement pas suffisants pour satisfaire tous les besoins en demande dans notre ville, analyse l'agente immobilière. Plus de 202 000 nouveaux résidents ont rejoint la province au cours de 2023, une hausse record pour l'Alberta. Selon l'économiste Charles Saint-Arnaud, Les conversions de bureaux vides en logements, ça fait partie de la solution, mais ce n'est pas la seule, car ça demande énormément de nouveaux logements pour accueillir tous les nouveaux résidents, donc la construction immobilière ne peut pas suivre le même rythme. Plus de 12 tours de bureaux sont en train d'être convertis en logements à Calgary dans le cadre du plan de réhabilitation du centre-ville lancé, il y a 2 ans, par la mairie, à une époque où le centre-ville avait atteint un pic avec un taux d'inoccupation de 34 %. Depuis 2014, le centre-ville est désert. C'est quand le secteur du pétrole et du gaz a commencé à entrer en récession, alors que notre centre-ville était en grande partie aménagé pour accueillir des bureaux commerciaux de cette industrie, explique Nathalie Marchott, directrice du développement stratégique du centre-ville à la mairie de Calgary. Pour redynamiser le centre-ville et apporter une réponse à la crise du logement, la ville offre aux propriétaires immobiliers 75 $ pour chaque mètre carré d'espace de bureaux transformés. On est désormais à 29 % de bureaux vacants, ce qui est une bonne nouvelle. Notre objectif est de convertir 6 millions de pieds carrés de bureaux dans le centre-ville d'ici 2031. Nous avons un plan établi sur 10 ans, détaille Nathalie Marchott. Personne ne s'en cache. Convertir des bureaux vides en logements sera loin de suffire pour faire face à la crise immobilière actuelle, la plus importante de l'histoire du Canada. Cela fait toutefois partie de la solution. De plus en plus de grandes villes canadiennes, comme Toronto et Vancouver, s'inspirent de l'exemple de Calgary. C'était « Convertir des bureaux pour répondre à la crise du logement », un texte de Justine Leblon, paru le 14 mai 2024 dans le Franco, en Alberta.
Déchirement autour de la présence de chiens sans laisse au Bois Summit. Un texte de Magdalene Boutros, paru le 10 juillet 2024 dans Le Devoir. Véritable forêt urbaine au cœur de Westmount, le Bois Summit est au centre de déchirements entre des propriétaires de chiens qui vont y promener leurs compagnons à quatre pattes et sans laisse, et des gens inquiets pour leur sécurité et pour la préservation de l'environnement de ce boisé unique. Tous conviennent que, depuis des décennies, le Bois Summit, l'un des 3 sommets du Mont-Royal, accueille, pendant certaines périodes, des chiens qui s'y promènent sans laisse. Une rareté, faut-il souligner. « Je suis très reconnaissante que ce lieu existe », lance Molly Ernstein, 26 ans, croisée sur l'un des sentiers du boisé. Sa balade quotidienne avec Luna ne serait pas aussi bénéfique si sa chienne devait être tenue en laisse, dit-elle. C'est une meilleure expérience pour nous deux. Je peux me promener à mon rythme en profitant des beautés de la nature, pendant que Luna dépense plus d'énergie que lorsque je la promène avec sa laisse. Un peu plus loin, Sandra Chiangula parle, elle aussi, avec enthousiasme de la communauté de promeneurs de chiens qui se baladent quotidiennement au Bois Summit. « Ça me fait du bien d'être ici. Que mon chien Rocky soit sans laisse, ça lui donne plus de liberté pour interagir avec les autres chiens. Il est plus amical. » Mais voilà que, depuis la pandémie, le mot s'est passé et l'affluence a augmenté. Lors des belles journées d'été, les chiens se comptent par dizaines sur ce site de 23 hectares, autrefois propriété de l'Université McGill, désigné comme « sanctuaire d'oiseaux et de fleurs sauvages » par la ville de Westmount. Hors des sentiers. « C'est vraiment un endroit extraordinaire », affirme à son tour John Fritz, qui est lui aussi propriétaire d'un chien. Mais avec un groupe de citoyens de Westmount, ce passionné de biologie s'oppose à la présence de chiens sans laisse au Bois Summit. Un chien sans laisse, c'est difficile à contrôler, fait-il valoir. S'il chasse un écureuil, par exemple, le chien va sortir des sentiers, piétiner des plantes et perturber l'habitat de l'impressionnante variété d'oiseaux qui se trouve dans le boisé, dont plusieurs espèces font leur nid près du sol et mange des insectes directement dans la terre, argue-t-il. Études à l'appui, Il ajoute que le nombre de plantes et de fleurs sauvages sur le site a radicalement diminué dans les dernières années. La présence de chiens sans laisse a un impact énorme. Il faut sauver le bois Summit, affirme-t-il. En mars 2024, des citoyens ont envoyé une mise en demeure à la ville de Westmount, lui intimant de se conformer à la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Adoptée par Québec en 2018, 2 ans après la mort de Christiane Vanney, victime d'une attaque mortelle par un chien, cette loi oblige les gens à tenir leur chien en laisse, sauf dans une aire d'exercice canin. Changement de dénomination. Quelques semaines plus tard, en mai 2024, le conseil municipal de Westmount a plutôt changé la dénomination du bois Summit pour en faire une aire d'exercice canin. Il n'y a pas eu de changement d'usage, c'était juste un changement administratif avec le wording pour la loi provinciale, soutient en entrevue la mairesse de Westmount, Christina Smith. Environ 99% des gens sont contents de cet usage. Le bois Summit n'est pas délimité par une clôture, mais rien dans la loi ne précise qu'une aire d'exercice canin doit être clôturée. Selon Maxine Cutler, une avocate à la retraite qui fait partie des habitants de Westmount, s'opposant à la présence de chiens sans laisse, il est clair que, dans la pratique, les parcs à chiens sont clôturés et sont spécifiquement aménagés pour cette fonction. Comment peuvent-ils empêcher quiconque de se faire attaquer? C'est un espace ouvert, dénonce-t-elle. Dans les derniers mois, une pétition a été lancée pour réclamer que les chiens soient tenus en laisse en tout temps, et une autre a été rédigée par des propriétaires de chiens souhaitant continuer de circuler avec leurs bêtes sans laisse au bois Summit. C'est la première fois depuis mes 7 années à la mairie qu'on a un problème avec ce dossier, mentionne Christina Smith. Horaire. Selon l'horaire en vigueur, les chiens peuvent se promener sans laisse de 5h à 10h, puis de 17h à minuit, sauf pendant la période de migration des oiseaux, de la mi-avril à la mi-juin. Tous les chiens doivent absolument porter une médaille remise par la ville de Westmount. Celle-ci peut être acquise par des non-résidents. Également ce printemps, le conseil a entériné une hausse du coût de la médaille de $50 à $100 pour les non-résidents et les amendes pour des infractions à la réglementation. Non-respect de l'horaire du sans-laisse, du port de la médaille, du ramassage des excréments, etc., sont passés à $500. Davantage de patrouilleurs sillonnent aussi les sentiers, assure la mairesse. Christina Smith, qui affectionne elle-même les promenades au bois Summit avec son chien Charm, croit qu'un équilibre a été trouvé. C'est sûr qu'il y a des gens qui pensent qu'on n'est pas là, et il y en a d'autres qui veulent aller au bois Summit avec leur chien sans laisse 7 jours sur 7, 12 mois par année, toute la journée. On leur a dit non. Tout le monde n'est pas content, mais c'est ça, la vie politique. Contrairement à ce qu'indique une information ayant circulé dans un journal local, il n'y a pas eu d'attaque de chiens sur la rue bordant le bois Summit à la mi-juin 2024, a confirmé au Devoir la police de Montréal. La ville de Westmount ne nous a pas fourni dans l'immédiat de données permettant d'évaluer le nombre de morsures ayant eu lieu au bois Summit au cours des dernières années. Pour John Fretz, la sécurité du public est en jeu et il est clair à ses yeux que les promeneurs de chiens sans laisse prennent les meilleures heures avant et après la journée de travail. Tout le monde devrait avoir un accès égal au bois, affirme-t-il. Mais pour Brian, qui se promène avec sa chienne Bella, ceux qui n'aiment pas les chiens disposent de suffisamment d'heures quotidiennement pour se promener au bois Summit. Ceux qui vivent dans le voisinage savent que c'est un espace ouvert aux chiens depuis des décennies. Il n'y a rien de nouveau. À ses côtés, son beau-père, Douglas Whitrap, ajoute que le lieu n'a pas son pareil à Montréal. Les parcs à chiens traditionnels sont beaucoup plus petits et surchargés, dit-il. Ici, c'est la nature à son meilleur. C'était « Déchirement autour de la présence de chiens sans laisse au bois Summit ». un texte de Magdalene Boutros, paru le 10 juillet 2024 dans Le Devoir.
Le regard des autres. Une chronique d'Hugo Bourque, paru le 10 juin 2024 dans l'Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick. Peu de temps après mon cégep, j'ai eu une révélation sur moi-même qui m'a secouée. J'ai réalisé à l'époque que je me définissais seulement à travers le regard des autres. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Est-ce que je fais plaisir? Est-ce que je déçois? Jamais une question sur mon bonheur, mes envies, mes désirs. Puis, en regardant de plus près, j'ai compris pourquoi. J'ai compris comment je me suis rendue là. Je faisais de la scène, du théâtre et de l'improvisation depuis longtemps. Et plus je donnais au public ce qu'il attendait de moi, plus on en redemandait. Et plus on en redemandait, plus je me définissais à travers les yeux de ces gens-là. Je devenais le petit comique, le clown de service, le gars qui anime des soirées, un des joueurs étoiles de la Ligue d'improvisation chez Gaspard. Mais pas moi. Je ne devenais jamais moi. Cela dit, je ne m'en plaignais pas non plus. J'étais très heureux là-dedans. Mais un jour, ça m'a rattrapé. J'ai réalisé que je n'étais jamais complètement moi-même avec mes amis non plus. J'avais appliqué inconsciemment le principe d'offre et de demande dans ma vie aussi. Je montrais seulement les côtés de ma personne qui allaient plaire à celle en face de moi. Ça a fait de moi quelqu'un qui, encore aujourd'hui, évite les chicanes ou les potentiels conflits parce que j'ai l'impression qu'à la moindre divergence d'opinion, on va me rejeter du revers de la main. Mon travail ne m'aide pas dans ça non plus. Je suis un travailleur autonome dans un milieu où il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Heureusement pour moi, je crois pouvoir dire que je fais partie de la deuxième catégorie, mais je suis très conscient que plusieurs grattent dans la porte en espérant le faux pas qui fera qu'on ne m'appellera plus. Et qu'on les appellera, eux. Le bon côté, c'est que ça me pousse à toujours travailler fort, mais ça me confine à me définir une fois de plus à travers le regard des autres. Dans ce cas-ci, de mes potentiels employeurs. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Est-ce que je fais plaisir? Est-ce que je déçois? Et avec les réseaux sociaux, c'est pire. Tu as combien d'amis Facebook? Tu as eu combien de likes sur ta photo? On se face live, on s'instagramise. Mais pourquoi on fait ça? Simplement parce qu'aujourd'hui, on ne vit qu'à travers les yeux de l'autre. Et là, c'est un peu le grand questionnement de l'œuf ou la poule. Est-ce qu'on le fait parce qu'on est comme ça ou est-ce qu'on est comme ça parce qu'on le fait? On veut être sûr de ne pas être les seuls à penser quelque chose. On se valide, on se compare, mais on ne se console plus. On ne se console plus parce qu'on ne montre aux autres que le meilleur de nous. Ce que je faisais aussi à ma sortie du cégep. On aime de plus en plus ça, flasher notre bonheur aux autres. Un genre de pied de nez à l'amorosité. Tu trouves ta vie plate? Je vais te prouver qu'elle l'est en te partageant toutes mes photos de vacances. Mon chalet est plus douillet que le tien. Mes pieds devant le sable et la mer ont l'air plus détendus que les tiens. Mon chat est vraiment plus drôle que le tien. Ce qu'on ne montre pas, c'est qu'avant de réussir la belle photo où on a donc bien l'air heureux d'être content, il a fallu chicaner ses enfants 4 fois plus tôt qu'une, se poigner avec un monsieur qui faisait exprès de se mettre dans la chotte et se cadrer le haut seulement parce que la plus jeune a fini par échapper son verre de jus de raisin sur notre pantalon pâle. Mais tout ça, la photo ne le raconte pas. Et on ne le dit pas non plus, parce que c'est une vie parfaite qu'on doit exposer sur les réseaux sociaux. Sinon, les gens ne nous suivront pas. Avant, les gens fake nous puaient au nez. Aujourd'hui, ces fakes-là, c'est nous tous. Nous tous qui sommes à la recherche d'approbation de l'autre, à la recherche d'une définition de soi à travers les yeux de ces autres-là. Malheureusement, ce n'est pas toujours évident d'être complètement soi-même. On se déguise, on se maquille, on se métamorphose. On se met beau pour une entrevue. On cache des choses pour ne pas décevoir. On évite certains sujets délicats pour ne pas créer d'impairs. Et pendant ce temps-là, on se cache. On cache l'essentiel, le principal, le sensible, le beau, et parfois le lait. Nous. On se reparle. C'était « Le regard des autres », une chronique d'Hugo Bourque, parue le 10 juin 2024 dans l'Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick.
La journée sans métro, un texte de Philippe Mercure, paru le 29 avril 2024 dans la presse. Prenez ça comme une humble contribution au débat public. Je suggère d'organiser la toute première journée sans métro. Je dis métro, mais j'inclus là-dedans les autobus publics, les trains de banlieue, le REM. On laisse les véhicules des sociétés de transport au garage pour 24 heures et on donne congé aux conducteurs. Après tout, il existe bien une journée sans voiture. Pourquoi pas une journée sans transport collectif? Je blague, mais seulement à moitié. Je rêve parfois réellement d'une telle journée. Je m'assoirai avec un pop-corn et je regarderai la désorganisation gagner les grandes villes du Québec. Ponts bloqués, classes à moitié vides, interventions chirurgicales annulées faute d'infirmières pouvant se rendre au travail. Rien pour se réjouir, on s'entend. Mais peut-être faudrait-il cette preuve par l'absurde pour que nos politiciens provinciaux réalisent, au son des klaxons, que le transport collectif n'est pas qu'une grosse patente qui coûte cher, mais aussi un service essentiel. Catherine Morancy, titulaire de la chaire Mobilité à Polytechnique Montréal, m'a aidée à imaginer ce à quoi pourrait ressembler une telle journée sans transport collectif dans la grande région de Montréal. Je vous jure qu'on en tire des enseignements intéressants. En semaine, les trajets parcourus par l'ensemble des usagers du transport collectif dans la région métropolitaine représentent l'équivalent de près de 15 millions de kilomètres. C'est 39 fois la distance Terre-Lune. Que se passerait-il si on éliminait ces trajets? Environ 28,5% des usagers des transports en commun de la région métropolitaine sont dits captifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de voiture. Une proportion de ceux-ci pourrait se déplacer à vélo ou à pied. Certains pourraient télétravailler. Mais ce n'est pas le cas des travailleurs d'usine, des préposés aux bénéficiaires, des enseignantes, des infirmières, des éducatrices de garderie. Il faut ajouter les élèves et étudiants qui comptent pour 36% des usagers du transport collectif et qui ne peuvent pas tous étudier de la maison. Des dizaines de milliers de personnes seraient donc prises chez elles. De façon générale, ceux qui ont les plus faibles revenus ou qui n'ont pas le luxe ou le privilège de conduire, enfants, personnes âgées, personnes avec des limitations, seraient les plus pénalisés. On oublie trop souvent que la question du transport collectif implique des enjeux d'équité majeurs, rappelle Catherine Morancy. L'effet domino toucherait tout le monde. Parce qu'une éducatrice de garderie qui ne rentre pas travailler peut sérieusement compliquer la journée d'une avocate ou d'une médecin. Les chiffres montrent que 38,4% des usagers du transport collectif vivent dans des ménages où il y a autant de voitures que de détenteurs de permis de conduire. Si tous ces gens sautaient dans leur véhicule, la distance totale parcourue par ces nouvelles autos sur les routes atteindrait près de 5 millions de kilomètres, à raison de 1,2 personnes par voiture, le ratio actuel. Ce serait le gridlock, embouteillage, complet, un peu partout, commente la professeure Morancy. Plus on s'éloigne du centre de Montréal, plus la proportion de déplacements qui se fait en transport collectif décroît. À première vue, on peut penser que les banlieusards seraient donc moins touchés par l'arrêt du transport collectif que les Montréalais, puisqu'ils l'utilisent moins. Mais l'experte prévoit exactement le contraire. Les plus pénalisés, dit-elle, vont être les gens des banlieues, parce que la capacité routière disponible va être utilisée par les Montréalais, les rues, les artères, les autoroutes, les stationnements. Ils vont utiliser toute la capacité disponible au centre, avec un effet tsunami vers les territoires moins centraux. Je trouve ce dernier constat particulièrement éclairant. un résident de Belleuil ou de Blainville qui utilise sa voiture pour se rendre à Montréal peut avoir l'impression que le métro ne lui apporte rien. Et on le comprendrait de raisonner ainsi. Mais on voit que cette perception ne pourrait être plus fausse. En plus de provoquer de la congestion et des impacts économiques à la chaîne, une journée sans métro générerait une augmentation de la pollution, du bruit, des risques d'accidents et du stress. Les études montrent que les gens jugent plus stressant de conduire que de prendre le train ou l'autobus, particulièrement dans la congestion routière. Il existe évidemment des façons moins radicales de prendre conscience des impacts positifs des transports en commun que de paralyser ceux-ci pendant 24 heures. L'une d'entre elles est de lire l'éclairant rapport de 141 pages mis à jour ce mois-ci par le Victoria Transport Policy Institute. On y dresse une liste des coûts bien réels des réseaux de transport en commun, mais aussi de leurs bénéfices. La planification conventionnelle des transports tend à négliger ou à sous-évaluer plusieurs de ces bénéfices, ce qui résulte en un sous-investissement des services de transport collectif, écrivent les auteurs dans une phrase qu'on aimerait imprimer dans un biscuit chinois et livrer à la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault. Ces bénéfices négligés touchent des aspects aussi divers que le budget des ménages, la protection des terres agricoles, la diminution des accidents ou la cohésion des communautés. Le rapport montre noir sur blanc que même si les transports en commun coûtent très cher, les bénéfices en surpassent les coûts. Ratio de 1,3 à 2,9 selon divers scénarios étudiés. Comme le réseau routier, le réseau de transport collectif représente les veines et les artères de nos villes, les travailleurs, les étudiants, les familles, les consommateurs qu'ils déplacent, sont l'oxygène de nos communautés. Actuellement, les discussions publiques portent presque uniquement sur les coûts des réseaux de transport collectif. Il serait temps de considérer les bénéfices dans l'équation. Sinon, ça revient à se plaindre qu'un âne coûte cher en foin, en oubliant la marchandise qu'il transporte sur son dos. C'était « La journée sans métro », un texte de Philippe Mercure, paru le 29 avril 2024 dans la presse.